Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très très heureuse de présenter cette émission sur la culture indo-tibétaine, les contes et la philosophie indo-tibétaine. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire dans cette émission ? Eh bien, j'aurais envie que les voix d'ailleurs se fassent entendre, c'est-à-dire qu'en Europe, on a longtemps pensé qu'on était un continent merveilleux où tout pouvait arriver sans souci, et on se préoccupait beaucoup moins du reste du monde, en particulier de l'Asie. Et aujourd'hui, on se dit que peut-être ces gens-là ont des idées, des philosophies, une sagesse qui pourrait nous être très utile. Voilà pourquoi, donc, avec Lunovic de 48 FM, nous avons pensé que ça serait une bonne idée. Pourquoi j'ai proposé dans le titre « Indo-Tibétaine » ? Parce qu'en fait, c'est un peu un couple comme mère et fille, si on peut dire. C'est assez particulier. La langue tibétaine est née, elle a accouché à partir du sanskrit, la langue classique de l'Inde ancienne, avant qu'elle ne s'appelle l'Inde, puisque, comme vous savez certainement, l'Inde ne s'appelle l'Inde que depuis 1947, date de son indépendance. Et auparavant, c'est, on va dire, des royaumes avec des cultures très différentes. Par exemple, les Bengalis sont très différents de certains autres États, etc. Donc, comment tout cela a pu se produire ? Eh bien, il se trouve qu'en Inde, il y a eu de grands philosophes depuis très, très, très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine en France. Aujourd'hui, ces cultures philosophiques sont un peu mieux connues sur le plan universitaire en France, mais ça n'a pas été le cas toujours. Donc, un beau jour, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas grecs et qui avaient déjà commencé à réfléchir bien avant nous. Et voilà pourquoi, en particulier, la pensée philosophique, la pensée spirituelle de l'Inde est considérée comme une pensée très éminente. Comment va se faire la rencontre entre le Tibet et l'Inde ? Ça, c'est fascinant. Bien que j'ai trouvé assez peu de choses dans les textes, y compris, j'étais bien sûr les universitaires, on peut imaginer que ce sous-continent indien a toujours été en relation avec tous ses voisins. Et comme vous savez, le Tibet est au nord de l'Inde. Il y a entre les deux, actuellement, il y a le Népal. Mais bon, autrefois, disons, à partir de la fin du néolithique, les frontières n'existaient pas, bien entendu, puisqu'il n'y avait pas d'État. Et donc, les relations commerciales et puis les relations tout court, sociales, devaient se développer de façon assez régulière. On a des traces, en particulier, de certains échanges commerciaux. Mais plus précisément, les historiens, qui sont souvent très prudents, s'en tiennent à dire que tout commencerait autour de 617-650, pendant le règne, alors de notre ère, hein, pendant le règne de Songtsen Gampo. Et c'est ainsi que, par exemple, Madame Alice Travers, dans son texte « Chronologie de l'histoire du Tibet, Outre-Terre 2009 », cite cette date que tout le monde appelle la première diffusion du bouddhisme. Ngadar, en tibétain, c'est la conquête également de nombreux royaumes indépendants dans le Shangchung. Shangchung, c'est le territoire à l'époque à l'ouest du Tibet. Et également, c'est l'époque où l'alphabet tibétain va émerger. Alors, on suppose née d'une langue dite prakrite en Inde orale, mais qui est devenue donc une langue écrite. Et comment cela a pu se faire ? Parce que l'empereur Songtsen Gampo avait entendu parler d'un certain Bouddha qui avait apporté une sagesse au monde. Et il a décidé d'envoyer des futurs interprètes, des futurs traducteurs, des universitaires, parce que c'était un empire extrêmement florissant à l'époque, au Tibet, en Inde, chercher des matériaux pour essayer de faire une langue qui serait aussi phonétiquement en accord avec la prononciation du tibétain parlé qui existait à l'époque, ce qu'on pouvait faire en tant que grammairien avec les lettres et les sons de la langue indienne. C'est aussi l'époque où on commence à construire des temples bouddhiques, dont le Jokhang à Lhasa. Et Madame Travers évoque également le règne de Trisong Detsen, toujours au Tibet, un autre empereur, 755-797. où le bouddhisme est proclamé, religion d'État. À ce moment-là, on invite de grands maîtres indiens. On n'a peur de rien, comme Shantarakshita et Padmasambhava. On construit le premier grand monastère à Samye en 779, 8e siècle, au Tibet central. Et c'est là que commencent les premières traductions des grands textes du bouddhisme indien en tibétain. Malheureusement, tout ne se passe pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque l'ancienne religion tibétaine Bön va être poursuivie, réprimée assez brutalement. Puis ensuite, toujours dans ce texte de Madame Travers, en 970, Rinchen Zangpo, qui est le premier grand traducteur très connu, enfin c'est pas le premier tout à fait premier, mais il est très connu, 958-1055, est envoyé au Cachemire par le roi Lalama Yeshe du Ngari, c'est une région de l'Ouest, pour étudier le métier de traducteur, inviter des maîtres et des artistes indiens au Tibet et rapporter des textes. Moi, je suis absolument fascinée devant cette démarche d'emprunt, de tout ce que ça peut supposer de convivialité, d'échange, de partager une langue commune alors qu'elle n'est pas encore tout à fait élaborée. C'est ce qu'on appelle le début de la deuxième diffusion du bouddhisme. On commence à ce moment-là un mouvement de retour aux sources indiennes. Et c'est là que ça va être très important dans la démarche que nous proposons ici. Donc ce retour aux sources indiennes est caractéristique de ce mouvement. Donc maintenant, pour un petit peu étayer la question du rapport entre le tibétain classique et le sanskrit, donc la langue ancienne de l'Inde classique, j'évoque la thèse de doctorat de Willem Gottschief en 2020. Citation. Ainsi, le sanskrit peut être perçu comme un archistratum, architecture, pour le tibétain, c'est-à-dire que ce dernier, le tibétain, a consciemment élaboré son vocabulaire intellectuel et son style technique à partir d'une réflexion sur le sanskrit. Donc voilà, cette citation montre bien à quel point les deux langues sont proches. Je cite encore Nicolas Tournadre, c'est un enseignant aussi qui a été enseignant à l'INALCO, et qui a écrit une grammaire très très chouette que j'utilise encore, mais toujours, la tournade français. La méticulosité et la maîtrise des traducteurs tibétains étaient telles qu'il est à l'heure actuelle possible de restituer certains textes bouddhiques dont l'original sanskrit a été perdu au moment des invasions musulmanes en Inde. Alors, que s'est-il passé? Eh bien là, on crée le tibétain à partir du sanskrit classique. Ensuite, les traducteurs tibétains traduisent du sanskrit classique en tibétain les textes fondateurs de la pensée, de la spiritualité indienne, surtout bouddhique, bien entendu. Et puis arrivent plus tard ces fameuses invasions musulmanes. Bon, on pense qu'il y a d'autres facteurs également qui ont contribué à la fin un petit peu de la période indienne ancienne. Donc ils ont perdu leurs manuscrits. Plus de manuscrits. S'il n'y avait pas eu les traductions tibétaines, on n'aurait plus ces textes. Donc c'est quand même un élément important. À mon sens, on peut dire qu'une chose est tout à fait certaine, c'est que les œuvres et les ouvrages traitant de littérature et spiritualité tibétaine incluent traditionnellement une référence obligatoire, je dirais tacite, comme si on avait toujours un immense respect pour la langue mère, au sanskrit. La langue qui vient du nom de l'Indus, comme tout le monde sait, je pense, mais enfin, le mot Inde vient du nom Indus, le fleuve du nord-ouest de l'Inde. Et enfin, s'il en était besoin, dans son avant-propos de l'édition en français des Contes facétieux du cadavre, cette phrase de Françoise Robin, professeure à l'INALCO, de même qu'à la manière d'une partie non négligeable de la littérature narrative et populaire tibétaine, le cycle des contes du cadavre trouve ses origines en Inde, s'inspirant des célèbres contes du vampire Vetala, indien, dont la plus célèbre version, traduite en français par l'éminent sanskritiste et indologue Louis Renou, fut publiée en 1963. Les contes facétieux du cadavre. Miro Tsedrung, en tibétain. Alors, vous ne voyez pas la photo, chers amis auditeurs, mais franchement, c'est délirant parce qu'on a une espèce de mort-vivant, cadavre, juste la tête, mais qui sourit, qui rigole, avec des yeux tout à fait marrants. Voilà. Donc, c'est l'édition de référence dont on va parler, bien entendu, qui a été traduite en français par la professeure Françoise Robin. Et l'intérêt pour un tibétologue, c'est qu'on a le texte tibétain à chaque page. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ces contes facétieux du cadavre ? Donc, je précise que l'édition, c'est l'Asiatech, 2005. Voilà. On va dire que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Avant de passer au texte lui-même, je voudrais vous parler de Françoise Robin, parce que c'est une femme extraordinaire que je connais. Je connais dans le cadre de notre travail pour un poète tibétain, dont j'ai travaillé des poésies. Donc, elle a un DEA de l'INALCO en 1999. En 2003, elle soutient sa thèse de doctorat de littérature tibétaine à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, sous la direction du docteur Heather Stoddart, intitulée « La littérature de fiction d'expression tibétaine au Tibet » depuis 1950, source textuelle ancienne, couvrant principaux et fonctions dans la société contemporaine tibétaine. Elle effectue régulièrement pour ses recherches des missions au Tibet. En 1993, Françoise part vivre 3 mois au Népal. En 1994, elle réside pendant 10 mois au Tibet, ce qui ne manque pas de mérite quand on connaît la situation là-bas. En 2003, elle soutient donc sa thèse de doctorat. Elle est spécialiste de langue, cinéma et littérature du Tibet à l'INALCO. Elle dirige la section de tibétain à l'INALCO depuis 2011. Et elle est devenue en 2016 vice-présidente de la Société française d'études du monde tibétain, après en avoir été présidente. Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Association internationale des études tibétaines depuis 2016. C'est une femme extrêmement engagée, très courageuse et aussi très enthousiaste. Elle est également membre titulaire de l'équipe de recherche Asie et membre associé de l'équipe CRCAO du CNRS. En fait, elle fait bien partie des 80 plus grands spécialistes du Tibet qui, en 2012, demandent au futur président chinois Xi Jinping d'intervenir pour sauver la langue tibétaine menacée de disparition. Elle ne va pas se limiter à ce genre d'action. Elle déclare en 2016 au Guardian que les allégations de mauvais traitement à l'encontre du cinéaste Pema Tseden reflètent la façon dont les Tibétains sont traités par les autorités chinoises et démontre que la Chine n'est pas un état de droit. Voilà, on a des gens courageux. Ce livre, Les contes facétieux du cadavre. Alors, quelques mots un petit peu pour vous préciser le contexte sociétal de ce texte. On va dire que la société tibétaine, comme la société indienne d'ailleurs, traditionnelle, est à l'origine agro-pastorale, bien entendu, et nomade en particulier pour ce qui est du Tibet. Donc les contes occupent finalement une place importante dans ces sociétés, dans le cadre d'une identité collective par exemple, de tradition orale bien sûr. Les contes par exemple permettent de diffuser des valeurs et des figures de référence pour renforcer la cohésion du groupe social, puisque finalement tout le monde est occupé aux mêmes tâches, à peu près. On pense que ces contes ont été collectés à date ancienne. Et devinez, ils ont leur origine en Inde, avec des histoires différentes sur une trame assez similaire. Alors on a un trio, un ascète, donc un méditant, dans une grotte, ou pas, je ne sais plus s'il est dans la grotte dans le texte indien. Le cadavre et le personnage principal. Le cadavre, c'est-à-dire, alors le cadavre, c'est pas véritablement un cadavre. On va dire que c'est un corps décédé, mais qui est réhabité, par un esprit facétieux. Donc, c'était quelqu'un... Enfin, un cadavre, c'est très particulier comme vision. Pas du tout morbide pour les Tibétains. Alors, ces contes sont aussi très célèbres en Mongolie. La culture mongole est aussi très proche de la culture tibétaine. Et l'original, si on peut dire l'original indien, les contes du vampire, est très connu également en Inde. Aucune version du Vetala, donc des contes du vampire indien, n'est attestée avant le XIe siècle. Donc on est au Moyen-Âge en Europe, si vous voulez. Mais on pense que des versions orales circulaient depuis le IIIe, donc c'est relativement très ancien. Quelques chercheurs ont évoqué des origines tibétaines, mais pour l'instant, ce sont des suppositions. Dans ce texte, Nikon Facétieux, on trouve les caractéristiques socioculturelles de l'Amdo, c'est-à-dire le nord-est du Tibet. L'auteur, donc Françoise Robin, traductrice, évoque un xylographe, donc manuscrit gravé sur bois. Vous savez, autrefois, on n'avait pas de parchemin, etc. Au Tibet, on travaillait sur le bois. Donc, on a encore beaucoup de bois gravé. Hein. On en a beaucoup dans les monastères. Donc, un xylographe des contes du cadavre, traduit en chinois à Pékin, où l'un des employés de la maison d'édition sino-tibétaine, qui était très amateur de ces contes, les a retraduits en tibétain, en ajoutant des particularités de l'Amdo qu'il connaissait bien, parce que l'original tibétain était considéré comme introuvable. Donc c'est assez amusant de voir cette tentative de restituer ce côté national du Tibet. Alors le principe pour les lecteurs un peu avertis, c'est le récit enchâssé, c'est-à-dire le récit dans le récit. Quelques mots sur les thèmes et enjeux des contes du cadavre. Bon, bien sûr, comme beaucoup de contes, hein, chez nous, on connaît bien les valeurs morales classiques, je dirais, de toute société. Toutes les versions tibétaines attribuent la paternité de ces contes à Nagarjuna, le fameux maître du Madhyamika, une école philosophique bouddhique dont on parlera plus tard dans une émission sur la philosophie. Les mésaventures du héros représentent le long chemin spirituel que tout individu est amené à conduire, la relation précieuse au maître spirituel, qui est là pour conseiller et aider. Et on trouve aussi des éléments de référence à l'alchimie. Alors ça, je découvre un peu ça, c'est la première fois que je vois cette référence. Tout en pensant éventuellement, enfin certains chercheurs pensent, qu'il s'agit d'une allusion aux pratiques tantriques. Alors on en parlera aussi du tantra, qui porte sur les canaux d'énergie.
Tell me I'm too dumb.
Le prologue. Autrefois, il y avait 7 frères, plus accomplis les uns que les autres, dans l'art de l'illusion et de la prestidigitation. C'est pourquoi les gens de la région les appelaient les 7 frères magiciens. À une distance relativement proche, vivait une famille comprenant 2 fils. L'aîné s'appelait Selché et le cadet Tenjoup. L'aîné Selché pensa « Ah, une fois assimilé le savoir de ces magiciens, je pourrais me procurer du beurre, du fromage et de la tsampa. » Aussi se rendit-il auprès des 7 frères magiciens pour y étudier les formules magiques. Il passa 3 ans à travailler pour eux comme serviteur, mais ne reçut aucune instruction concernant la magie. De plus, quand les magiciens se livraient à leur art, ils l'envoyaient effectuer des tâches au loin. Selché supportait ses difficultés, bien qu'il n'eût guère de quoi se vêtir ou manger. Un jour, son frère cadet, Tenjoup, se rendit auprès de lui avec des provisions et demeura avec lui. Le cadet était un garçon à l'esprit clair, à l'intelligence vive. Aussi alla-t-il, le soir, écouter sur la pointe des pieds les 7 frères magiciens. Il arriva au moment où les 7 frères s'entraînaient. En cachette, il observa scrupuleusement les tours de magie et il découvrit ainsi, dans leur intégralité et sans erreur, les instructions relatives à la magie. Puis il retourna auprès de son frère Selché, le réveilla et lui dit « Grand frère, même si tu l'apprends, il n'est pas sûr que tu maîtrises la magie. À quoi bon passer ici son temps, dans la souffrance? Retournons tous deux chez nous. » L'aîné écouta son cadet et tous deux arrivèrent de nuit dans leur région d'origine. Le cadet dit alors « Grand frère, il n'est pas sûr que tu maîtrises la magie en l'apprenant. Nous avons dans l'écurie un excellent cheval blanc. Il a bonne tête et bon museau. Ne le mène pas à la résidence des 7 frères magiciens, mais va-t'en, troque-le et rapporte le fruit de cette transaction. » Aussitôt, le cadet alla dans l'écurie et se transforma en un cheval blanc excellent. Le frère aîné se rendit dans l'écurie. Il ne pouvait se lasser de regarder l'excellent cheval blanc et, ainsi transporté, il en oublia de se demander où était passé son frère cadet. Il riait tant qu'il restait là, bouche ouverte. Il se dit « J'ai appris pendant 3 ans la magie sans rien y comprendre et mon frère a réussi à dénicher un cheval excellent comme celui-ci. Il est vraiment futé. » Puis il demeura un moment à tergiverser. « Est-il vraiment bon de vendre cet excellent cheval? Et si j'en faisais ma monture ?»
Dabala, sida kinani, bugu mandu tangu logu tsewe pami Nino tangu ne, king mandu dali yu Chimbu chabu dong mandu lo, mangbu se Jungdu, gudu, nadu, yodu, kadu Yine pami king mandu sodu Sida jamyo nambu di tojiji Hani, lamdi nambu di bugu mandu ni Bu, kende jene mili sembo sanguchi Kale kuze june mi, shena changuchi Madem ne yalan, mutu yusun Langa kaze yone kurtu ju pu pomududa Na simna yube yiji Kawa chimbu yinedi malabuchi Gurdin chewe amala da bala kinani Kudzu rungu shubuti manzu molang
Manzu puyu Buyi mo manzu jime Zamda zamu kudu Yonzu puyi mo nide Manzu puyu Buyi mo manzu jime Zamda zamu kudu Yonzi bu yinbu nide
Bu yinbu nide Bündü tu Kendi ngadzu kuhu yume Hak hugu me dele yine di Tübe ruwa yu Simre machi Ngadzu sangu debu yin Bala hamula kunanyo debu riduda Sadarin bu ngadzu katresha Yine ngadzu samri kendi za desha Puri bündi kimba simna nide Tuja kada chine nganzu kenzu jime Lodi nganzu jurkumari Rui gyuda Kenzu jiwo chame nganzu de yuda Tienji bündi che Medzi ji bündi de Mune nganzu kenzu medzi ji jibu me Chezan kenzu sim kibu che dua Simre machi Sugo sub che je dua Dusa kenzu yogu tu erwa yub Namli ya de kenzu kibu yonge molan yub
Nganzu po yu Puri mbo nganzu jime Zanda zanda kodu Yonza puyin bo nide Manzu puyu Puyin bo nga tujime Zanda zanda kodu Yonza puyin bo nide
Puyin bo nide
Le ciel s'éclaircit, puis le soleil se leva sur les sommets des montagnes. Les sept frères magiciens allaient revoir dans la chambre de Selché. Lui et son frère étaient partis. La pièce était toute vide. Ils pensèrent « Oh oh, hier soir, quand nous nous sommes entraînés à la magie, nous ne nous sommes pas méfiés. Et ces deux-là ont épié en cachette nos secrets concernant la magie. Et ils les connaissent tous, alors qu'il est, c'est sûr. » Comme ils étaient mauvais et cruels, l'aîné déclara « Le proverbe dit, pour mener un cheval sauvage, il faut une longue longe. Pour couper un vieil arbre, il faut une hache avec un long manche. Il ne faut pas que nous fassions preuve de négligence envers ces deux frères. Si on n'éteint pas le feu quand il est encore modeste, il finira par brûler la prairie. Si on n'arrête pas le ruisseau quand il est encore modeste, il inondera la vallée. Si nous autres, les sept frères magiciens, ne transformons pas ces deux frères en herbe folle poussant dans les ruines, nous pouvons être sûrs que tout ce que nous possédons, renommée, richesse, revenus, connaîtra le même sort qu'un tas de cendres éparpillées par le vent. Aussi devons-nous déployer nos procédés et notre magie. » Les sept frères magiciens se transformèrent en sept marchands. Ils chargèrent des biens précieux sur des chevaux et des mules et se mirent en route vers la résidence des deux frères. Malgré son nom, Selché était en réalité un garçon honnête mais pas très malin. Il ne soupçonna pas l'identité des sept marchands et les fit entrer chez lui, leur faisant bon accueil. Il se demanda s'il n'était pas dans la situation décrite dans le proverbe. Le bétail se rassemble de lui-même pendant que son maître dort. Les sept magiciens, sûrs du premier coup d'œil que l'excellent cheval blanc attaché à son piquet était le fruit de la transformation de Chunjoup, aussi tinrent-ils à Selché divers propos relatifs au commerce et obtinrent-ils le cheval excellent contre Sang d'or.
Thank you.
Alors qu'il l'emmenait, il bavardait en riant. Tuant ce cheval, puis écorchant-le et dépeçant-le. Tunjoub s'étant transformé en cheval, il ne pouvait pas parler. Mais son esprit était très clair. Et il comprit qu'on allait le tuer et fut terrorisé. À peine arrivé au bord d'une rivière, les six frères aînés établirent leur camp. Ils dirent au petit dernier de tenir le cheval par la bride. Le cheval magique était au 100 coups, son cœur cabriolé comme un agneau. Il guetta un moment d'inattention chez le benjamin des frères, un être fruste, pour lui échapper simplement en tirant sur sa bride. Il se mit à galoper, fuyant comme un oiseau s'évade d'un piège. Les sept frères, voyant qu'il s'enfuyait, crièrent « Frappons-le, frappons-le, tuons-le, tuons-le !» et se lancèrent à sa poursuite. Au moment où ils étaient sur le point de s'en saisir, le cheval regarda dans la rivière et vit un poisson à la surface de l'onde. Il se transforma instantanément en poisson d'or et s'enfuit au fond de la rivière. Les sept frères magiciens se transformèrent à leur tour en sept loutres et se lancèrent à sa poursuite. Au moment où ils s'apprêtaient à l'attraper pour de bon, le poisson d'or regarda dans le ciel et vit un pigeon. Aussitôt, il se retourna sur le dos et se transforma en un pigeon blanc qui s'envola dans l'espace céleste en battant des ailes. Les sept frères magiciens se transformèrent aussitôt en sept faucons et se lancèrent à sa poursuite. Alors qu'ils allaient s'en emparer, le pigeon blanc, au mépris de sa propre vie, s'engouffra dans une grotte qui se trouvait à mi-hauteur d'une montagne imposante. Le maître Nagarjuna s'y tenait, en train de pratiquer les siddhis. Quand le pigeon y fut entré, il retrouva forme humaine, se prosterna devant le maître, posa sa tête sur ses pieds et le pria en ces termes. Quand on a une anecdote, on la confie au maître. Quand on a de la misère, on la confie au protecteur. Quand on a des délices sucrés, on les offre aux parents. Quand on a des vérités, on les dit au protecteur. Je suis à bout de ressources. Les sept frères magiciens m'ont suivi. Je me suis enfui, mais je ne puis leur échapper. Je ne trouve pas de trou où me dissimuler. Grand maître, soyez mon protecteur et mon aide. Le maître, qui n'opérait pas de discrimination entre les êtres vivants, qui tous avaient été sa mère dans une vie antérieure, fut pris de compassion pour ce jeune homme et lui dit « Oh, il est vain de méditer sur la compassion si je ne protège pas les êtres vivants en détresse. Je ne me mêle généralement pas des activités du monde, mais si tu es mal en point et que ta vie est en danger, je vais faire quelque chose. Cet homme qui s'en prenne à un seul, ce n'est conforme ni à la loi religieuse, ni à la loi des hommes. Transforme-toi donc en la perle principale de mon chapelet et reste-y. » Tunjoub fit comme indiqué et le maître se tint là, tenant la perle principale avec son pouce. Les sept magiciens qui s'étaient transformés en sept yogis arrivèrent à l'intérieur de la grotte et dirent
« Oui, vieil homme, où est le pigeon blanc qui a pénétré en volant dans cet antre tout à l'heure? Rends-le-nous !»
Les yeux clos, le maître restait à réciter des manies sans répondre. Les sept yogis crièrent
« Ohé, tu es sourd ou muet? Tu vas nous le donner ce pigeon, oui ou non? Si tu ne nous le remets pas, nous ferons comme cela !»
Et tout en parlant, ils se transformèrent en sept insectes noirs et blancs et s'accrochèrent au corps du maître. Tunjoub, qui voyait la scène, se mit à trembler et se dit
« Zut alors, que faire s'ils s'en prennent au maître à cause de moi ?»
Il bondit du chapelet et se transforma en un poulet qui extermina les insectes à coups de bec. Ceux-ci se transformèrent aussitôt en sept cadavres humains. Le maître Nagarjuna en conçut un grand désagrément.
Ah là là ! En tuant ces sept hommes, tu as accumulé d'incommensurables fautes.
Tunjoub était désemparé et affligé. Il dit :
Maître, vous m'avez sauvé la vie. Bien que ces sept hommes soient bel et bien morts, je m'efforcerai d'exécuter vos ordres pour effacer la souillure de mes méfaits et pour vous rendre votre bonté.
Le maître dit :
S'il en est ainsi, ne t'afflige pas. Les actions accomplies sont irrémédiables. Aussi le regret est-il vain. Il faut effacer la souillure de tes méfaits.
Tunjoub demanda « Quelle purification faire ?»
Le maître dit « Bien, au-delà des montagnes et des vallées, à l'ouest, en partant d'ici, se trouve un grand charnier appelé Silwatsel, où vit un cadavre appelé Nujou Chen. Le bas de sa taille est d'or, son torse est de turquoise, sa tête est ornée d'un chignon en conque. Si tu l'attrapes, il servira de matière première très particulière pour accomplir une siddhi. Dans notre monde, chacun deviendra plusieurs fois centenaire, les richesses seront équitablement partagées et il n'y aura aucun pauvre. Si tu la portes devant moi, les souillures de tes méfaits seront effacées. »
Tunjoub dit « C'est facile !»
Thank you.
Le maître dit, il n'est pas aisé d'attraper le cadavre Nyodrup Chen. Même s'il est relativement facile de le rapporter, il ne faut pas ouvrir la bouche ni prononcer un son après l'avoir pris. Voilà ce qui n'est pas facile. Si tu prononces une seule parole, il t'échappera. Ceci entendu, Tunjup s'engagea à effacer la souillure de ses méfaits en surmontant toutes les épreuves pour rapporter le cadavre, ce qui devait faire le bonheur de tous les êtres du monde. Au moment de partir, le maître lui dit « Quand tu arriveras au charnier Silwatsel, tu verras de nombreux cadavres, petits et grands, qui crieront « Emmène-moi, emmène-moi !» Si tu leur jettes des grains rituels tout en leur récitant des mantras et qu'ils tombent à terre, c'est signe que le cadavre Nyodrup Chen ne se trouve pas parmi eux. Celui qui dit « Ne m'emporte pas, ne m'emporte pas !» et qui n'est pas à terre mais monte au sommet d'un manguier, celui-là est Nyodrup Chen. L'ayant repéré, tu feras mine de couper le tronc de l'arbre avec cette hache, lune blanche. Le cadavre descendra aussitôt. Puis tu le fourreras dans le sac bariolé qui contient 1000, que tu attacheras avec la corde bariolée sans brin. Mange ce marsène inépuisable. Tu chemineras nuit et jour sans parler et tu arriveras auprès de moi. Si tu prononçais un seul mot, il s'envolerait. Garde cela à l'esprit. Tu es venu à cette grotte Décheu. Aussi t'appellerai-je Décheu Zangbo. Il lui remit des provisions pour la route et l'envoya. Alors Décheu Zangbo se dirigea vers l'ouest, comme le maître l'avait ordonné. Venu à bout des obstacles qui se dressaient sur sa route, il arriva au charnier Silwatsel, où de nombreux cadavres, petits et grands, crièrent à son intention « Emmène-moi, emmène-moi » Quand il récita un mantra et leur jeta ses grains, ils tombèrent à terre. Au pied d'un manguier, il leva son regard. Du haut de l'arbre, le cadavre Nyodrup Chen lui dit « Ne m'emmène pas, ne m'emmène pas !» Décheu Zangbo fanfaronna « Je suis l'essence du maître Nagarjuna. Ma hache est lune blanche. Mes provisions sont inépuisables. Mon sac est bariolé qui contient 1000. Ma corde est bariolée sans brin. Je suis Décheu Zangbo. Descends, gros cadavre, ou je coupe ce gros arbre. » Le cadavre Nyodrup Chen dit « Ne coupe pas le tronc de l'arbre, je descends. » Et il se laissa tomber au bas de l'arbre. Décheu Zangbo le fourra dans le sac, qu'il lia avec la corde, le mit sur son dos et s'en retourna tout en mangeant ses provisions. Quand il eut parcouru une certaine distance, le cadavre dit « Oh, le jour est long, c'est épuisant. De deux choses l'une, pour abréger une longue distance, soit il faut un cheval, tu n'en as pas et moi non plus, soit il faut des histoires. » Tu sais en raconter, et moi aussi. Ou bien tu racontes une histoire, et moi j'écoute. Ou bien moi je raconte, et toi tu écoutes. Décheu Zangbo se souvenait de ce que le maître lui avait dit. Il poursuivit sa marche sans répondre, son sac sur le dos. Le cadavre reprit. Ohé, si tu ne dis rien, je vais te raconter une histoire. Écoute-moi. Et il raconta une histoire. Fin du prologue. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que la lecture vous a intéressé. Et nous allons finir aujourd'hui avec Tibetan Heart Sutra, Prajna Paramita Hridaya. Donc c'est un texte qui est chanté en tibétain. C'est le Sutra du cœur en français. Comment dire, le Sutra du cœur, c'est le sutra le plus court de la tradition bouddhique et aussi un des plus importants parce qu'il explique comment toute chose, tout phénomène, dont y compris nous-mêmes, n'avons pas d'existence en tant qu'être inhérent, indépendant. Nous sommes toujours en lien, nous sommes toujours en connexion. En fait, c'est ça l'idée. Je le dis de façon un peu moderne, si vous voulez, mais au fond, c'est ça l'idée. Merci de votre attention. Keto chonden de mashero che paro to chinde nimbo pambo chinko di kenda kentum pantu
jina chonden de jabenka chag pombore lagelon ke gend jambondo chancho sembe gend jambondo tanji to junte te ense chonden de samuna washe jave chichi nam donje tinge zela Suso, yante ite chanchu semba semba chembo, pamba chere se wanchu shera chemba roto chemba, samu chemba nila nambatashi, kumbo ngambon te dala yaran jinchi tomba nambatashi. Ne sanje chintu te da demba sharibu janju semba semba jembo pampa chere se wanchu lande kenchemes trijembo kala la sheranchi paronto jemba samuchu bache bande bande chitalam panja Tiki jimmy bandon, John Ju Samba Samba Jimbo, Pampa Jerese, one Ju gets it on them, Shalta de Pulan de Kitchemesu, Shari Purichi Poarichi Pomo, Kala Shara Chipar. Chimba samiche panche pandepa tendi taranam brata wancha te pumbunga bote dacha rajinche tombra nam prayanta bache sotao dikenda kentum bantu china chonden de jabinka chag pumbore Chancho sembe gend jambondo tanji to junte te ense chonden de samuna washe jave chichi nam donje tinge zela nyombar suso yante ense chancho semba semba jambo Pamba chere se wanchu shera chemba roto chemba samu chemba nila nambatashi kumbo ngambon te dala yaran jinchi tomba nambatau tene sanje chintu te dademba sharibu Jonju semba semba jembo pampa chere se wanchu lande kenchemes trijembo kala la sheranchi paronto jemba samuchu bache bande bande chitalam panja tike jemembanto Janju semba semba jimbo Pampa jere se wanju kentse ta demba Shalta te pulan de ke jemesu Shari puri chipo ari chipo Mokan lala shera chiparu Chimba samu chupan chupan dupa Tindi taranam brata wancha Te pumbunga bote dacha Rajin che tombra nam prayanta bache sotao Zutomba wo tomba ni zuso zule tomba ni jemaye tomba ni lechon zu jemaye Tejin do tsorwa tondu she tondu je tonam brashe banam tomba wo Chare pute trece tange tomba ni te tenye me ba ma che manga ba che ma me ba che ma ta ta wa che wa me ba ka wa me ba wo chare pute ta ve na tomba ni la su Sorwa mendu she mendu che na me na bra she pa me mi me na wa me na me che lu me i me su me da me che me ro me re ja me che me to mi ke ka me ba ne i chi ka me i che na bra she bi ka je par do me Mare pa me mare pa se pa me pa ne gashi me gashi se pe par do yo me to te jin do dungar wa do kunjo wa do go pa do la ishe me to pa me ma to pa yo me Shari Bhute Tavena Chanchu Sambhana Thopa Me Bheche Shara Chimparo Do Chimbala Tinchine Te Simla Te Pa Me Te Thapa Me Chinje Lole Shindon Dene Nyangye Lende Bharata Chindo Tusundo Nambra Chupi Sanje Tanche Chon Shara Chimparo Do Chimbala Tin Lana me payunta brazo be chancho tong brazo brazan jesu. Eta vena shera chimparo tu chimbe nga ripa chimbe nga. Lana me be nga minyam badanyam brache be nga. Dunga dam chera to shivra chepe nga me chepe na dembra shivra jade shera cheparo to chimbe nga me pa te yanta anga te nga te para anga te para sanga te bodhi soha shari po chonchu semba semba jembo te tara shera cheparo to chim samola la paranja Tene chom den de tingin zin te le jin de chom chu semba semba chumbo Papa chere zi won chula le so shi chawa chin le so ri chibu te te jin no te te jin Chicha chu chi temba shin do shera che paro to chimba samola che bacha Tishi shiva nam to che so yi rang o chom din di chi ti ki chi ka sa ne che ta den ba sha ta ti bu Chom chu sem ba chi ri se wan chu tong tong che tong ten Ko te da tong la ta mi ta la ma yi ta chi sa che pi chi te yi rang Chom din di chi su ma la ngun ba ra tu Kento Bhangavante Tranjam Paramentaritaya Chari Bhute Tavena Chanchu Sambhana Thopa Me Bheche Shera Chimparo Do Chimbala Tinchine Te Simla Tepa Me Bheta Pa Me Chinje Lole Shindon Dene Nyangye Lende Bharata Chindo Tavena shera chimparo tu chimbe nga ripa chimbe nga Lana me be nga minyam badanyam bra chibe nga Dunga tam chera to shivra chibe nga Mi chimpe na dembra shivra jade shera chimparo tu chimbe nga me ba Teyanta anga te nga te para anga te para sanga te bodhi soha Shari po chonchu semba semba jimbo te tara sharan chi paro to chim Samo la la paranjao Temi chom dende tingin zin tele zin te chom chu semba semba chumbo Papa chere zi won chula le so shi chawa chin le so re chi bu te te zin no te te zin Chicha chu chi temba zin do shera chi paro tu chimba samola chi bacha Ishi shiba nam to che so ye rong o chom ten de che te ke che ka sa ne che ta de ba sha ta de bu chon cho sem ba che re se won chu ton ton che ta de ko te ta ta la ta me ta la ma yi ta te sa che be che te ye rong chom ten de che su ba la ngam ba ra tu